carnet de campagne, bonjour, dernière pause en l'heure, et comme je vous dis régulièrement qu'un vent de jeunesse souffle dans les campagnes et que les projets portés par des à peine trentenaires poussent à vue d'œil, je prends pour exemple à Saint-Georges-Motel, 900 habitants entre Marcilly-sur-Eure et Dreux, c'est-à-dire entre l'Eure et l'Eure-et-Loire. Trois jeunes femmes, rejointes par une quatrième, ont constaté la rupture des liens intergénérationnels et la disparition des commerces, et elles ont décidé de passer à l'action. Elles ont rédigé en 2016 un questionnaire afin d'interroger les besoins de la population. Elles ont créé un groupement d'achat l'année suivante et ont fondé l'association Ressources Heures, avec un petit jeu de mots pour l'heure. Une fête de printemps a suivi, les adhésions d'habitantes comme une voisine également. Le local s'est ouvert dans la foulée et désormais l'association va ouvrir un commerce zéro déchet, créer un jardin partagé afin de ne laisser personne à l'écart et de fournir des emplois. Une petite histoire comme beaucoup d'autres à ne pas négliger. Le Ressources Heures a une page Facebook que vous allez trouver en lien à nos pages d'émission. À Évreux, on plante une forêt nourricière et derrière ce « on » se cache l'efficacité du collectif pour une transition citoyenne du département, membre du réseau Alternatiba. Claude Ordioni, référent du projet, répond à nos questions après avoir répondu à celles de Laurent Gibowski dans les pages numériques de la vie. Et puis nous terminerons par une histoire simple et humaine d'une famille touchée par un drame qui s'est résolue à s'investir dans un musée local pour alléger sa douleur. Lilian Le Tourneur sera notre second invité à cette occasion.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Claude Ordioni, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le monsieur forêt nourricière maintenant sur les coteaux d'Évreux de ce projet porté par le collectif pour une transition citoyenne de l'heure, c'est le collectif Alternatiba.
Oui, c'est ça, ça fait partie d'une des actions du collectif.
C'est symbolique une forêt nourricière à planter entre citoyens engagés?
Oui, parce que c'est un cadre pour préserver notre environnement et promouvoir aussi le fait que la nature nous donne de la nourriture d'une façon gratuite.
Et c'est une manière de fabriquer une sociabilisation d'un autre genre avec une idée de partage, puisque cette forêt sera, parce qu'elle nourrit pas encore, elle sera ouverte à tous.
Oui, c'est ça. C'est un lieu qui est accessible à tous. Et c'est en même temps un lieu où on plante des arbres et des arbustes qui donnent de la nourriture, hein, parce que le principe, c'est quand même ça. Et c'est aussi en même temps un lieu pédagogique d'observation de la biodiversité, en accès libre et en permettant la convivialité et le partage.
Le terrain vous est mis à disposition par la ville d'Évreux.
Par la ville d'Évreux, oui. Et c'est un terrain qui est situé en périphérie d'un quartier de notre ville, qui est très accessible puisque du centre-ville on met 30 minutes pour y accéder, donc c'est quand même très intéressant. Et ce lieu est en fait, on a la chance d'avoir près du site de la forêt des coteaux Natura 2000 qui sont classés Natura 2000, mais qui sont vraiment en lisière de la forêt même. On a un rucher aussi qui est sur place. Et un chemin de randonnée aussi qui fait quasiment le tour du lieu. Et aussi avec un espace que la mairie va organiser un peu dans le même sens que ce que l'on fait. Voilà. Un espace qui est de 2 hectares et qui est juste à côté.
Vous avez signé une convention avec la mairie, justement, reconduite dans 3 ans. Quelles sont les conditions de cette convention?
Alors les conditions de cette convention sont effectivement de respecter certaines normes. C'est de créer un espace capable de produire de la nourriture accessible à tous, de créer un espace pédagogique d'observation de la biodiversité, en accès libre, bien sûr, d'organiser aussi la participation des habitants de proximité, mais pas que, et de créer aussi des activités de sensibilisation, d'initiation pour les enfants et les adultes. Voilà.
Comment vous l'avez constituée, cette forêt?
Comment on l'a constitué?
Vous n'avez pas acheté tous les arbres. Je ne sais pas combien il y a d'arbres d'ailleurs.
Non, voilà. Tout, on le fait en fait sans quasiment financement. C'est-à-dire que par le biais de forums, de différentes actions que le CTCE met en place, on contacte des gens qui sont intéressés par ce projet de la forêt et qui nous suivent, voilà. Et ces gens nous proposent des dons d'arbres, de grillage, d'outils, de tuteurs, et on arrive à fonctionner comme ça.
Et vous en avez planté combien?
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait de plan encore de situation par rapport à nos plantations, mais on doit être aux environs d'une centaine d'arbres et autant d'arbustes, ouais. Fruits rouges, quoi, voilà.
Et quand on dit forêt nourricière, ce n'est pas exclusivement et simplement un verger.
Non, mais c'est quand même la forêt nourricière. Mais c'est aussi une façon de mettre en place des chantiers participatifs avec des rencontres pédagogiques, avec les différentes maisons de quartier de la ville d'Évreux, de centres sociaux aussi, avec lesquels on est partenaire. On développe aussi un partenariat avec la LPO, de façon à avoir, lors de nos chantiers, des animateurs qui peuvent sensibiliser à autre chose que des plantations, plutôt de la biodiversité en général. Et justement, dans ce domaine-là, on a eu le 30 septembre, une journée découverte, en fait, de la forêt nourricière, au cours de laquelle M. Lefranc, maire d'Évreux, a aussi planté symboliquement un arbre. Voilà. Et cette journée découverte, elle a été suivie par une centaine de personnes. Ça s'est déroulé sous un soleil bienfaiteur, avec des ateliers nature, un pique-nique zéro déchet, des ateliers découvertes sur les insectes, sur la découverte des plantes, celles qui sont comestibles sur le terrain, dans le projet aussi de développer des outils pédagogiques que l'on mettra en place lors des rencontres avec les différentes personnes qui viennent sur le site. Voilà.
La forêt nourricière d'Évreux, bâtie sur le modèle d'une forêt naturelle, à suivre grâce au collectif pour une transition citoyenne de l'Eure, CTCE. C'est le référent Alternatiba dans le département. Vous allez trouver d'ailleurs le lien avec le collectif Alternatiba de l'Eure. Merci Claude.
Merci. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je vous confie une petite histoire qui est à la fois une réflexion sur l'abstraction des découpages administratifs et une preuve d'opiniâtreté. À Rugles, commune de 2300 habitants dans un canton très enclavé et très éprouvé par les crises, Frédéric a soutenu, c'est notre correspondant, une association dans le cadre d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement. L'association s'appelle toujours d'ailleurs l'association culturelle rugloise, créée par des habitants en 96. Elle a pris en charge les fêtes de la musique, créé un salon du livre, créé des ateliers théâtre, des chantiers jeunes, des ateliers d'artistes, et puis surtout quelques emplois. Et puis en 2015, la loi NOTRe a fusionné les communautés de communes en une grande intercommunalité Normandie-Sud-Eure. Résultat, cette dernière a retiré la gestion du centre de loisirs à l'association pour en prendre les compétences. Il restait plus qu'un bureau qui a échappé au transfert et qui a permis à l'association de se relancer en embauchant une nouvelle directrice. L'association est agréée depuis l'année dernière par la CAF et elle est espace de vie sociale. Alors même si le challenge n'était pas gagné, il aura fallu mobiliser les habitants, réaliser un diagnostic de territoire, animer un comité de pilotage, reprendre les ateliers, assurer du soutien scolaire. Il y a un café des parents qui a vu le jour, une marmite partagée pour rompre l'isolement autour d'une cuisine communautaire aînée, et puis les lectures pour les tout-petits à compléter la palette des initiatives. Chapeau. Association culturelle rugloise.fr pour l'adresse. Lilian Le Tourneur, bonjour.
Bonjour.
Lilian, vous connaissez tous des métiers d'autrefois et de la vie d'autrefois. Alors, pas moi. Par exemple, je vais vous demander en quoi consistait le métier de mérandier.
Alors le mérandier, c'était principalement pour fendre du bois, notamment préparer du tavaillon pour couvrir des chalets en montagne ou faire de l'essentage. Et c'était aussi également très attaché au tonnelier pour lui préparer des douelles de tonneaux. Sachant qu'on est le plus grand producteur de fûts en chêne au monde et c'était un très gros travail manuel. Donc le mérandier préparait les douelles.
Comment vous avez appris tout ça ?
Ah, c'est une passion que j'avais déjà en moi, puisque mon papa était artisan, alors j'ai bien sûr fait beaucoup de recherches suite à la création de ce musée qui a ouvert ses portes en septembre 2013. Et donc après de nombreuses recherches, j'ai pu développer ma passion et savoir un peu tous ces différents métiers dont beaucoup n'existent plus d'ailleurs.
Pourquoi un musée et non un écomusée, un lieu où il y a de la mise en vie des savoir-faire.
Oui. Oui, c'est important de faire vivre ce musée. Donc, à la base, on a créé ce musée suite au décès de notre fils unique qui est décédé de maladie en 2008. Hein. Et donc, on a mis en place une collection d'outils et d'objets anciens représentant le travail et le mode de vie de nos ancêtres. On va dire que c'est déjà à la base principalement pour se redonner un sens à la vie et se relever de ce drame.
C'était des outils pour reconstruire votre vie.
Oui, tout à fait. Il faut continuer à avancer et on a voulu souhaiter faire partager notre passion.
Alors, c'est quand même le résultat après 5 ans d'ouverture, 35 métiers présentés aux scènes de vie, 7000 pièces exposées, des visites guidées d'1h30 à 2h. C'est-à-dire que le lieu est immense.
Ah, le lieu est assez important. Je vais dire qu'il est même trop petit actuellement, puisqu'on a beaucoup d'outils et de métiers en réserve. Mais il est très très bien aménagé. On a installé un maximum donc d'objets pour présenter toute cette vie d'autrefois. C'est un musée local, mais c'est aussi un musée qui représente les métiers qu'on pouvait trouver dans toute la France, tels le sabotier, le tonnelier, etc.
Vous redoutez une perte de mémoire?
Ben, on redoute toujours une perte de mémoire. Bon, après, on souhaite transmettre ce musée, nos connaissances, hein, puisqu'il est très très important que nous puissions pérenniser ce musée. Et donc, les personnes apprécient énormément les visites guidées, puisque nous faisons découvrir ben, un tas d'outils, d'objets, leur utilisation, leur fonctionnement. Et donc, il faut absolument transmettre tout ce savoir.
Vous avez été aidé par les collectivités ?
Très très peu. On s'est débrouillé, je vais dire, quasiment tout seul. Hein. On a été très téméraire. Hein. Et justement, aujourd'hui, notre main est tendue pour auprès des collectivités pour que ça puisse continuer à vivre pour les générations futures et leur transmettre tout ce savoir-faire qui était lié, le travail était lié aussi à l'écologie, à la nature autrefois. Les personnes avaient beaucoup de connaissances de la nature. Et travailler en relation, bien sûr, avec la nature.
Donc vous avez fait un tour de France pour collecter ces objets ?
Oui, exactement. On a des métiers, en exemple, qui viennent des Landes, le métier de résinier-gémeur. On a aussi le métier de bouchonnier, où dans notre région, on ne va pas trouver spécialement de chêne et liège. Donc, c'est un tour de France, voire d'ailleurs, puisqu'on a des outils, des objets qui ont été inventés, créés en Angleterre, en exemple, en Allemagne. Hein. Donc, c'est vraiment riche au niveau du musée.
Belle idée. Le musée vie et métier d'autrefois de Breteuil-sur-Iton, de Lilian et Elisabeth. Vous allez trouver un lien pour découvrir cet espace. Et c'est l'histoire aussi d'une vie, comme vous l'avez compris, et pas uniquement l'histoire d'un musée. Merci Lilian.
Merci beaucoup. Je rappelle que le musée est fermé décembre, janvier, février pour la période hivernale. Il va réouvrir ses portes 1er mars.
Très bien, c'est noté. Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée à vous également.
Des remerciements s'imposent comme chaque semaine. Merci à Anne Yoro qui réalise les carnets, Joël Levert qui leur donne du contenu, aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donne du volume, comme aujourd'hui Tiffany Battistel.